Salut, c'est Étienne. Vincent et moi, on a eu l'idée de recevoir des musiciens et musiciennes autour d'une table, d'un repas, et de profiter de cette occasion pour parler de différentes choses qui concernent de près ou de loin leur vie dans la musique. On a voulu enregistrer ces conversations et vous les faire écouter. Ça s'appelle Les Mineureuses, le podcast du collectif Mineur de Fond, et ça vous est proposé par Art District Radio. Aujourd'hui, on reçoit Paul Jarret. Bonne écoute. Hop, je me permets d'interrompre cet épisode avant même qu'il ne commence pour vous annoncer une très bonne nouvelle. Le collectif Mineur de Fond organise cet été la première édition de son festival. Ça s'appelle le Festival des Pantomimes. Ça se passe du 13 au 15 août à Villa-Roger et Sainte-Foy, en Tarentaise. Donc la Tarentaise, c'est où ? C'est en Savoie, département que certains et certaines estiment être le plus beau du monde. Mythe ou réalité, les avis divergent, mais pour vous faire votre idée, venez nous retrouver du 13 au 15 août et profitez au passage de superbes concerts de musique des Balkans, de folk, de chansons françaises, d'impro, faites de belles balades. Venez voir du théâtre et profitez même d'un vrai bal populaire pour guincher toute la nuit. Plus d'infos bientôt sur internet, sur les réseaux sociaux. Et voilà, on vous tient au courant. Je vous souhaite un bon épisode. Argelier, c'est où déjà ? C'était où Argelier ?
L'Arzac, non, c'est comme ça ?
C'est trop près, monsieur.
Oh, c'est sympa, quand même.
Ah oui, c'est ça, t'as raison, l'Arzac.
Mais le raisin venait de...
Non, c'est pas du verre.
Et si, c'est dans la même année. Minervois, c'est comme ça.
Ça va, quoi, j'arrête ?
On parle de bouffe ?
Non, on parle de pinard, là.
Ah, oui,
pas ça. Mais c'est tu veux peut-être un verre, d'ailleurs ?
Tiens.
Merci. Je t'en prie.
Il y a même un enregistreur ici, quoi. Partout, en fait, on a tout fait
dans les murs.
Il y a des caméras aussi, tu.
Surtout dans les chutes.
Pardon. Prends pas, hein.
Ah ben. Tu reviens d'où, là ?
Chez moi.
À Manchester City ?
Manchester City.
Ouais.
Et est-ce que je te prête un club ?
Ouais, bien sûr.
Ça fait très longtemps que
j'ai
pas fumé.
Bah, c'est à tel point que tu dis un clope.
Ouais.
Oui, c'est vrai
que
c'est
une déconnexion.
Oui, c'est ça.
Ouais,
c'est
pas de soucis. Hein, ça,
merci. Je veux dire un truc et je sais plus ce que c'est. Pas
ah, attends.
C'est pour toi, Étienne.
Qu'est-ce qu'il a dit ?
C'est pour toi, Étienne. Je sais pas de quoi il parlait. Un collecteur ?
Ah,
son X.
Petit cadeau.
Cool.
Merci.
Stop, Rem.
Trop bien.
Ah, merci
bien,
beaucoup. Tu m'as remis par contre, mix by Erwan Boulet et t'as pas mis Étienne Renard du coup
après. Ouais, t'es quand même dans l'heure.
C'est vrai
ouais.
Oh,
ça me fait trop plaisir, merci.
Tac tac.
Bah, trop bien,
merci. C'est-à-dire que t'as tendance sur le même disque que Jim Black.
Ouais. Pile au même endroit, non ouais. J'enlève de son blister, ça c'est un truc qu'un musicien m'a appris, Didier Desbois, je sais pas si vous voyez qui c'est Didier Desbois.
Non.
Qui m'a appris ça, que quand un copain t'offre un disque, faut systématiquement l'enlever du blister directement parce que s'il vient chez toi et qu'il le voit dans une discothèque et qu'il est encore sous blister,
c'est vrai que c'est prendre. Effectivement.
C'est vrai que c'est pas bête.
J'enlève parce que je veux écouter, tu peux
bien. Oui. Oui. C'est cool la jaquette, qui c'est qui t'a fait le visuel ?
Je suis très content du visuel. C'est. En fait, les illustrations, c'est une copine qui est basée en Angleterre. Okay. Laure Van Midden, qui est artiste visuel et qui a écouté les morceaux et qui a fait les dessins en même temps.
Okay.
C'est un peu son concept. Okay. Enfin, il y a beaucoup de mecs qui font de l'impro en Angleterre.
Okay.
Donc elle a fait des dessins comme ça. Et le mec qui a fait le graphisme en général, c'est Steve Byram. C'est un putain de graphiste américain qui a fait plein de pochettes pour Winter and Winter,
pour
Tim Burton, tout ces...
J'ai dit, ouais, ça fait penser.
Ouais, ouais, c'est typique de ces trucs. Plein d'albums de Paul Motion aussi.
Ouais, d'accord.
Okay. C'est un... Ouais, tu t'es gavé,
ouais. Ouais, bien fait plaisir. C'est vraiment un mec dont je suis ultra fan.
Ok.
Je me suis dit que
tu l'as contacté quand même.
En fait, c'est Laure, la dessinatrice là,
ouais,
qui demandait à ses potes un peu des contacts de graphistes cool. Et il y a le trompettiste avec qui elle bosse régulièrement qui a dit bah, il y a Steve Byram. Et moi j'ai fait Steve Byram. Et elle a dit bah, ouais, essaye. Bon, ok.
Tu as chopé son contact
Je suis sur son site.
Bah ouais, bon.
Ah non, c'est. Oui, si, je suis sur son site. Et en fait, genre pour. Bon, c'est pas lui qui a fait les dessins, mais pour le design, il a demandé 1000$.
Ok.
Ok.
Parce que pas non plus, enfin, vu qui c'est, franchement...
Et Neoclin ?
Ouais, c'est le label.
C'est le label...
Label allemand.
D'accord, ok, je connaissais pas.
Okay. T'es content ?
Ouais, je suis content. Ouais.
Tu peux dire si t'es pas content,
oui,
t'es
pas au montage, t'inquiète.
Bah, sur la vidéo, j'ai entendu une différence déjà sur la vidéo YouTube de son. Hein.
Ouais.
Le master a dû faire un
peu. Le master, il a dû faire un putain de master, le mec.
C'est mortel.
Et puis on a revu le mix aussi. On a changé pas mal de trucs. Et le master a fait. C'était vraiment un super mastering quoi.
Qui a fait le mastering?
C'est Philippe Heck, le mec de Bauer Studio.
Ok. Trop bien.
Il a rajouté tout ce qui manquait.
Ouais, c'était pas
trop bien quoi.
Oui. Oh, trop cool, hâte d'écouter.
Et vous les gars, comment ça va?
Bon, ça va, tout
bien.
Ouais. Une semaine calme pour moi.
Vous êtes là tous les deux
Ouais. Enfin, moi je pars vendredi dans le Derry, la résidence de musique avec un groupe de Sega, Maloya.
Ok, très bien.
Donc voilà.
Ouais, c'est cool.
Ouais, grave.
Je suis carrément. Ça.
Carrément. Je kiffe, je laisse. Etienne, qu'est-ce que tu fais?
Moi je me tourne vers les pouces, mais je suis à la maison là, en fait, en ce moment. Bah, tu veux le chiffon?
Oh, un curry?
Non. Pas tout à fait un curry.
Ah.
Un curcuma, on va dire.
Curcuma.
C'est un curcuma?
C'est un curcuma.
Yes.
Voilà, et en entrée, nous avons des
petites burrata.
Oh, trop bien, ça fait longtemps, Putain, c'est la première de
ça sent le printemps.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Alors j'ai pas de petite tomate parce que on va déconner non plus, on est en mai. Mais ma petite boîte,
c'est un petit filet d'huile d'olive, un petit
tour de moulin à poivre,
on va être
bien. Ouais. Un source.
On passe au salon, c'est ça?
Allons-y, ouais.
Burrata, huile d'olive, tour de poivre.
Ouais, du coup en ce moment alors, qu'est-ce qui se passe pour toi?
Eh bien, je sors de 3 semaines de vacances avec enfant à la maison.
Enfin,
un enfant à la maison.
Ok. 3 semaines de vacances?
Ouais, parce que pour les... En fait, il y avait un truc genre, ils ont avancé les vacances d'une semaine, mais avec la... Mais il y avait une semaine avant où les écoles étaient fermées, un truc de confinement, ouais. Je sais pas quoi. Ouais. Voilà. Mais c'était cool, on a bricolé à la maison, on a fait des travaux avec Tobias, donc mon grand à la maison.
Ouais.
Et c'était très sympa.
Il a quel âge Tobias?
Il a 4 ans et demi maintenant.
Ok.
Donc il nous a aidé à faire un peu de couverture là.
Ok.
On a fait un bout de toit pour la bride à vélo et tout ça, on a fait un peu de charpente et tout ça. C'était cool.
Trop cool.
C'était rigolo.
Du coup, ce moment-là, t'avais pas d'autres répètes ou des trucs comme
non.
ça
qui tenaient quoi. Non. En avril, j'avais pas grand-chose. J'avais 2-3 jours d'action culturelle à Alès.
Ouais.
Tout début.
C'est le voisin.
C'est le voisin qui fait de la musique.
Il nous accompagne.
Qui est venu nous féliciter ce matin parce qu'on répétait ici. Il trouvait ça génial.
C'est vrai. Ouais, c'est vrai.
Comme c'est urbain. Je
sais pas si on l'entendra à l'enregistrement.
C'est bon.
Ouais, du coup, en avril, tu répétais pas trop?
Non, je vais. Bon. Mais ça a tombé bien.
Ouais.
Parce que du coup, et puis il a fait beau pendant cette période, donc c'était cool. Voilà.
Et donc, parce que tu viens de sortir. Enfin, il est sorti officiellement.
Je vais sortir le 28 mai mon prochain disque avec mon groupe qui s'appelle Ghost Songs.
Ouais.
Et j'ai reçu les CD aujourd'hui.
C'est quoi ce groupe?
C'est un groupe avec Jim Black, qui est un batteur américain. Moi, je suis fan depuis très longtemps. Et j'ai eu la chance de pouvoir monter un groupe avec lui. Et il y a aussi Joseph Dumoulin, qui est un pianiste belge, qui habite à Paris depuis un moment, qui là joue du Rhodes et du synthé basse. Et Julien Ponvienne au saxophone ténor.
Ouais.
Voilà, et je mange un peu de boîte.
Et donc, comment tu l'as monté? Comment ça s'est... C'est quoi l'histoire de cette formation?
Alors, j'ai eu beaucoup de chance, à savoir, j'étais lauréat d'un dispositif qui s'appelle Talent Adami Jazz. Donc, j'étais lauréat de ce truc-là, dont le principe, c'était d'imaginer une collaboration d'un entre guillemets jeune musicien comme ouais. moi, donc maintenant j'ai 30, je vais avoir 36 ans, okay. donc je suis de moins en moins jeune.
Ouais, quand tu l'as fait, on avait 34.
J'en avais 34, ouais.
Parce que c'est encore un jeune musicien. En
fait. Oui, oui, oui. Ouais. Imaginez une collaboration entre un jeune musicien et un autre musicien ou une musicienne de renommée internationale, comme ils disent. Okay. Du coup, il fallait imaginer un truc complètement fou qui pourrait pas avoir lieu dans des conditions un peu normales, parce que là, il y mettait pas mal de sous pour que ce soit possible. Okay. Donc j'ai imaginé ce truc avec Jim Black, parce que moi, c'est un mec que j'écoute depuis que j'ai 16 ans et qui m'a beaucoup influencé.
C'est toi qui as candidaté hein, pour
ça. Ouais, c'est moi qui ai candidaté. Il fallait l'accord du musicien en question. Ouais. Donc j'ai contacté Jim pour lui proposer ce truc-là. Et donc, on a été lauréat. Donc okay. c'était trop cool parce qu'on a eu une belle enveloppe pour démarrer le projet. Genre organiser les répètes et faire des photos, des vidéos, enfin, comme pour un peu n'importe quel projet que tu démarres. Sauf que là, on avait des sous pour le faire, ce que d'habitude on n'a pas. Ouais. Et ensuite, on commençait direct à faire des concerts sur 5 festivals, des grosses scènes. Et le premier vrai concert, c'était à l'amphithéâtre de Vienne.
Ah, c'était ça, déjà, le premier. Vous aviez fait un concert pro.
Alors, on avait fait un espèce de showcase au bout de 3 jours de répète.
Au Sunside, ou un truc comme ça.
Sunside, ouais.
Ça va vite.
Ouais, ça va vite. Où il y avait genre.
C'est pas compliqué de monter des projets en fait.
En fait, d'habitude c'est très très compliqué, mais là tout était très simple. Ouais. Genre il y avait une super attachée de presse sur le projet direct.
Ah oui, ok.
C'était dingue. Du coup, au showcase, il y avait plein. Enfin, il y avait tous les journalistes de jazz à Paris.
Bien sûr.
C'était un peu les chocottes. Déjà, c'est la première fois que je jouais avec Jim Black, enfin avec cette équipe-là, sur un répertoire tout nouveau.
Ouais.
On avait répété il y a 2 jours et demi.
Pression.
Petite pression. C'était au Sunside, genre un lundi matin à 11h.
Ah ouais.
Donc c'était très bizarre. Mais c'était cool. Et après, l'étape d'après, c'était à Vienne. Alors, ce qui était très drôle, c'est que c'était en première partie de Diana Krall.
Ah oui, d'accord. Pile dans le répertoire, pile dans l'esthétique, quoi.
Ouais, mais du coup, le public n'était pas vraiment venu pour nous voir. Il y avait 4000 personnes, je crois. Okay. C'était n'importe quoi, mais...
Lundi, quoi.
Ouais.
C'est incroyable, quand même. Voilà, tu te retrouves dans l'amphithéâtre de Vienne.
Fais pas ça, toi.
Bah, non, pas cette semaine. Pas cette semaine. j'ai pas ça sur mon agenda.
Excuse-moi.
Du coup, c'était rigolo. Ouais, c'était une sacrée expérience, quoi.
Et, t'as pris conscience du truc sur le moment ou pas?
Ça allait vraiment vite.
Tu vois ce que je veux dire, c'est...
Bah... Oui et non. J'ai su que ça allait se faire en décembre.
Ouais.
On a commencé. La première fois que je rencontre Jim pour de vrai. On a fait une séance photo parce qu'il était de passage à Paris pour un concert.
On s'est croisés ce jour-là. On a fait ça à Pantin, dans des studios. Ouais, moi, j'ai enregistré avec Antoine Delcroix au... Comment il s'appelait ce studio? On était à côté...
Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Sûr. Mais oui, c'est vrai.
Mm-hmm. Exact. Vous avez fait ces photos avec un fond orange, là.
Ouais. Mm. C'était une séance trop... C'était complètement surréaliste parce que c'était genre...
Vous aviez pas joué encore?
Non, on n'avait pas joué. C'est la première fois qu'on se rencontre. Et lui, il trouvait ça encore plus bizarre que moi, je pense. C'était dans un studio photo, hein, genre photographe hyper pro avec un décor, avec 3 assistants. Il y a tout le staff de la Dami qui est venu, genre ils disent, c'était super bizarre. En plus, il y avait une styliste. Enfin, c'était franchement pas le mieux pour nous mettre à l'aise, aussi bien Jim que moi. Et puis il y avait que Jim et moi en plus.
Okay.
Alors que moi, je voulais vraiment, enfin, je tenais au fait que ce soit un groupe à 4.
Oui, mais bien sûr. Ouais.
Le truc un peu. Un peu, je sais pas quoi, un peu comme c'était la collaboration de.
Oui, c'était, moi, quoi. C'était l'objet du.
Bah, oui, c'est l'objet de
demande. Oui, voilà.
C'est l'objet en plus du parrainage, quoi.
Oui, c'est ça, oui.
Après,
oui,
c'est dommage pour les.
Bref. Bah, moi, c'était pas trop ça que je voulais.
Ouais.
Mais bon.
Première rencontre, photo à Pantin, dans un décor orange.
Voilà. Et. C'était rigolo. Et après, il fallait que j'écrive le répertoire. Et puis répète, et puis donc après ça va vite. Tu m'étonnes. J'ai commencé assez tard la guitare à 12 ans, comme plein d'ados à jouer du
rock.
du rock, du blues, puis du punk, puis du metal. J'ai commencé un peu à m'intéresser vaguement au jazz vers 16 ans, quoi. Donc, c'était assez tardif. Et,
par contre, intéressé au jazz par toi-même?
Bah, mes parents écoutaient. J'ai toujours entendu Keith Jarrett à la maison, quoi.
Okay.
Et Brad Meldo et plein d'autres trucs. Mais j'ai commencé à m'y intéresser un peu plus vers 16 ans. Alors qu'à l'époque, je chantais dans un groupe de métal et tout. Enfin, voilà.
Tu chantais en mode chant guttural et tout.
Growl,
ça. Growl,
ouais.
Ouais. Il y a des vidéos de ça?
Il y a une vidéo, mais je l'ai en VHS.
Ah oui,
ouais. Oh. Oui, c'était une autre époque. C'était mon groupe de brutal death, ouais, pour la fête de la musique, le seul concert qu'on a fait.
Bah oui. Guitare plus chant.
Chant
lead.
Ouais, chant lead. Et j'avais pas du tout le niveau à la guitare à l'époque pour jouer ça, parce que c'était quand même du death metal assez technique et tout. Et je jouais pas du tout de la guitare assez bien. Ouais.
Cheveux longs ou pas
plus à cette époque-là, mais avant j'ai eu les cheveux longs.
C'est pas vrai.
Ouais. J'ai fait le combo bague, acné et cheveux longs.
Ouais.
Je faisais du skate.
Ouais. Ah oui.
Et du coup,
personne ne s'est imaginé avec les cheveux longs et les bagues en train de grouler.
Non, je n'imagine pas.
Si, j'ai moins faim du coup, mais. mais du coup, ouais, tu t'intéresses.
Et j'ai commencé à m'intéresser un peu au jazz. Et à l'époque, je me souviens, j'ai découvert à peu près à la même période Kenny Burrell, parce que mes parents m'avaient. Faire le disque Midnight Blue, parce que j'écoutais beaucoup de blues, du coup ils se disaient, ils avaient été conseillés par un vendeur de la Fnac.
Ah oui. À l'époque où les vendeurs de la Fnac donnaient
des conseils, où ils vendaient des disques d'ailleurs. Ah, ils le font encore. Comme quoi c'était un guitariste de jazz, mais très influencé par le blues, et c'est un super disque. Et par hasard, j'ai découvert à peu près à la même époque Marc Ducret.
Ah oui.
Allez. Par un copain en Bretagne qui m'avait filé la cassette, je crois, de Lombardi Verdi, en trio avec Chevillon et Champard. Et je trouvais ça trop bien, enfin je comprenais rien du tout, je comprenais vraiment rien. Mais voilà, j'avais ces deux trucs-là.
Un truc qui est déjà bien ouvert sur les.
Ultra ouvert.
Très différents, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et influencé blues les deux, en fait.
Ouais, dans un sens, ouais. Enfin, c'est de la guitare, hein.
Oui. Non. Je peux citer des gens qui sont pas spécialement influencés par le blues. Hein.
Ouais, mais tu prends la masse planétaire des guitaristes et
une bonne partie.
Le nombre de phrases blues là-dedans.
Il y a un super chanteur français qui a écrit une chanson là-dessus, Johnny Hallyday. Je
sais pas oui.
Il a écrit une chanson là-dessus. Quoi,
quelle chanson?
Bah, toute la musique que j'aime.
Ouais. Ah oui, bien sûr.
Elle vient de là, elle vient du blues.
Bah, bien sûr.
Donc voilà, on va citer Johnny Hallyday.
Bah ouais, c'est ça, c'est
pour ça que je peux arrêter, coucher,
parce que je regarde. Ouais. ok, donc du coup, tu découvres à la fois Kenny Burrell
et Marc Ducret.
Mais je prenais pas de cours, enfin, j'étais complètement autodidacte. Hein, donc, mais par contre, j'étais un vrai passionné. Je passais tous mes week-ends à aller faire des répètes avec mes groupes de métal, justement. Et j'écoutais plein de musique et j'ai commencé à aller voir des concerts. Je commençais à aller voir des concerts un peu rue des Lombards, aussi, enfin, Sunside en tout cas. Et après au lycée, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire après le bac? Donc je me suis dit, je suis plutôt littéraire, j'aurais jamais le niveau pour être musicien professionnel parce que j'avais pas fait le conservatoire et tout. Donc
tu te dis, ouais, ok, c'est marrant, ok.
Ouais, donc la solution que j'ai trouvée, c'est de m'inscrire en fac de musicologie.
Ouais.
Pour devenir, je me disais, journaliste de jazz ou travailler pour un label ou un truc comme ça, en tout cas écrire sur la musique, quoi. Et donc j'ai fait fac de musicologie à Saint-Denis, à Paris 8.
À Paris 8, ok. Ouais.
Et c'est là où j'ai pris mes premiers cours de théorie, de solfège et tout. Ouais. Et j'ai fait une licence en 4 ans là-bas, plutôt que 3, parce qu'ils ont eu une année, ce qui est hyper bien là-bas, et je crois unique en France. Ils ont une année de remise à niveau, justement, pour les brels comme moi, qui n'avaient jamais fait de solfège. Et c'était assez intensif. Toutes les semaines, il y avait 2 heures d'audition. 2 heures d'intonation, donc chant, lecture et tout ça.
Pas 2 semaines d'audition.
2 semaines, pardon, 2 heures.
D'audition, c'est-à-dire quoi ?
De cours. Cours audition, c'est genre dictée musicale.
D'accord.
Ce genre de trucs. Donc vraiment des trucs très techniques de solfège, quoi. Classique.
Okay.
Intonation, pareil, lecture, chante, enfin lecture de notes et tout. Et écriture classique aussi.
Okay.
Et là, donc à ce moment-là, t'as...
C'était juste après le bac.
Ouais, donc t'as, 18 t'as pas encore ans, fait le CRR, tout ça.
Non. Ah, ouais, moi non, pas du tout.
Mais bravo, Paris 8, hein.
Ouais,
franchement, carrément. Okay. C'est super Paris 8.
Ouais, j'avais pas du tout. Et ils ont des spécialités à Paris 8, dont jazz et musique improvisée.
Ok. Et qui tiennent la route, quoi.
Ouais, carrément.
Et des super cours.
Ok.
Wow. Des super
comment tu connais?
Parce que j'y étais.
Ah, bah, c'est vrai, le pôle sup, en fait.
Je suis à une licence
là-bas. Ouais.
D'accord. Et vraiment, j'ai des cours. T'as des cours super. Hein.
Il y a des cours, il y avait des cours assez nuls aussi. Mais des cours super. Vraiment.
Pas très positif.
Une toi, acoustique.
Hein non, si. Non, mais tu m'as dit pas de langue de bois alors.
Hein. Bah non, c'est bien.
Non, il y avait des cours vraiment pas bien. Et des cours vraiment super. Il y a des profs. Pas que en jazz d'ailleurs, en musique contemporaine, il y avait des mecs genre.
C'était surtout.
Surtout musique contemporaine. Hein.
Sociologie, ouais, musique contemporaine, ouais. Musique électroacoustique.
Ouais, ok.
Trop bien.
Carrément.
Vraiment.
Okay. Ouais, ouais. Ah, mais c'était là que tu bossais tes trucs d'un sort de.
Pure data et tout ça, ouais. Ouais, c'est même là-bas.
Ouais, c'est grave. Ok, c'est ça.
Merci Guillaume Loisillon. Merci à lui.
Guillaume Loisillon, il était déjà à l'époque, mais j'étais pas avec lui.
Super.
Yes. Et du coup, j'ai pris mes premiers cours de théorie là-bas. J'ai fait mon premier atelier de jazz aussi la deuxième année, je crois, avec Yves Torchinski. Donc il y avait un atelier. Il y avait un atelier de jazz. Alors, musico, c'est pas de la pratique. Hein, normalement, c'est que de la théorie. Ouais. C'est de la musicologie, quoi. Mmh. Mais il y avait quand même un cours d'atelier de jazz du régime par Yves. Ouais. Et j'ai fait ça la première ou deuxième année. Donc j'étais complètement à mort. Mais j'ai appris pas mal de trucs. Mmh. Et je crois que c'est lors de la. Enfin, au cours de la première année où je me suis dit, mais en fait, je veux pas. Enfin, je veux continuer à jouer, en fait. Je veux creuser ce truc-là.
Et tu t'es juste dit, je veux continuer, ou tu t'es dit, c'est possible aussi? Genre, t'as eu un truc à un moment où tu t'es dit, en fait.
Je sais plus trop, en fait. Voilà. Je sais plus trop. Je me suis pas forcément dit, je vais devenir musicien pro, mais en tout cas, je me suis dit, je veux jouer. Mmh, ouais. Je veux pas seulement écrire sur la musique, je veux jouer pour de vrai, quoi. Mmh. Et du coup, ce qui correspond à la deuxième année de fac, j'ai réussi à m'inscrire au conservatoire du 9e.
Ok. Mec dont j'ai déjà entendu parler, en fait.
C'est un super conservatoire de jazz municipal à Paris.
Bah, c'est dans les locaux de l'historique du conservatoire de Paris, c'est à rue de Rome.
Non, c'est rue de Rochechouart, dans le 9e.
Ah, d'accord.
C'est le conservatoire.
Le 8e, du coup. Non, c'est ça?
Oui, peut-être.
Ouais, ouais, d'accord.
Rome, c'est le 8e, je crois.
Ouais. C'est le conservatoire Nadia Elie Boulanger.
Ah, oui, ok, très bien.
Et c'était drôle parce que moi j'ai grandi dans ce quartier, enfin j'ai grandi vers Poissonnière dans le 10e, et j'ai toujours entendu parler de ce conservatoire, c'est un conservatoire de jazz et tout, et c'est trop bien. Et j'avais tenté une fois, je crois, un ou deux ans avant d'y rentrer, et j'ai été recalé parce que je me souviens à l'audition, c'était Perdido,
okay.
Luc, et je faisais n'importe quoi, enfin je comprenais rien, j'avais vu la partition, je me disais, qu'est-ce que c'est?
Moi je suis rentré au conservatoire de Dijon avec un relevé d'un solo en slap de Marcus Miller.
Oh yes!
Ah oui, d'accord.
Pas mal.
Je pense que ça valait des pions. Je comprenais rien non plus.
Bah ouais. Et au conservatoire du 9e, la première année, c'était Yves Brouki à la guitare. Donc qui est vraiment un mec bebop, quoi.
Okay.
Genre à fond bebop. Et je continuais à faire en même temps. Et c'est Yves qui m'a. Enfin, moi, je commençais à écouter un peu Kurt Rosenwinkel et tout. Et il m'a dit, vas-y, relève du Charlie Parker. Il m'a fait relever du Charlie Parker à fond.
Okay.
Et ça m'a beaucoup servi, en fait.
Ah, ça t'a servi?
Ah, mais ouais, carrément. Ah, mais grave.
T'as compris des trucs?
Ah, mais oui, j'ai commencé à comprendre des trucs. Et avec la fac en parallèle, où j'ai vraiment appris plein de trucs.
Ouais. Genre des trucs, des notions d'harmonie.
Ouais.
T'arrivais, du coup, t'as fait le lien à ce moment-là.
Je commençais à faire le lien. Alors, c'était un peu le bordel entre l'écriture, chiffrage classique et tout, et la théorie de jazz.
C'est clair. Ouais.
Mais il y a eu des trucs qui se recoupaient et c'était hyper intéressant. Et donc, j'ai continué la fac jusqu'à avoir ma licence, au bout de 4 ans. Et en parallèle du conservatoire du 9e, il y a eu une année où j'étais à la fois au 9e. J'ai fait des cours à la Jonquière aussi, donc au 17e. J'ai fait des cours à Noisiel, quelques cours au conservatoire de Noisiel, et l'atelier à Montreuil.
Tout ça dans la même année?
Bah, il y a une année où j'étais dans 3 conservatoires en même temps que la fac.
Ah, t'étais vraiment déter, quoi.
Ah oui, là, par contre.
Là, t'étais à fond, quoi.
Là, j'étais à fond et j'allais voir plein de concerts tout le temps.
Trop bien.
Et je donnais des cours aussi pour gagner ma vie.
Ok.
Et donc, c'est vraiment une période où j'arrêtais pas, mais c'était génial parce que
tu faisais un atelier à Montreuil, pardon?
Ouais, au conservatoire de. Okay. C'était avec Malou Valois à l'époque.
Tu pouvais t'inscrire juste pour l'atelier?
Ouais.
Ah ouais, ok.
Ouais, c'était possible. Et à Noisiel, je faisais juste guitare et formation musicale. C'était avec Frédéric Favarel.
Ouais.
je continuais le 9e où j'avais cours de guitare. Alors là, c'était le titulaire, parce que Yves Brookie était là pour remplacer une année. Le titulaire est revenu, c'était Eric Daniel, que j'ai eu pendant 3 ans après. Et lui, c'est vraiment, qui habite pas loin d'ici d'ailleurs, c'est vraiment lui, je pense, le prof qui m'a le plus marqué, qui me parlait de. Au début, il me parlait de time, de bosser au clic. Et je me souviens avoir, au bout de 2 ans de cours, je crois, où j'ai compris en fait ce qu'il me disait depuis le début.
Okay.
J'ai eu un espèce de déclic.
Ouais.
Et là, à partir de là, c'était génial. Okay. On parlait de construction, de respiration, de silence. C'est pas un mec qui a une super technique et tout, mais en musicalité, en pédagogie, ouais. C'est vraiment un mec qui m'a complètement ouvert. C'était toute une période assez géniale quand même. Mais j'arrêtais pas, quoi.
Tu bossais tout le temps.
Je bossais tout le temps, ouais.
Sur la route,
ouais,
sur les.
Ouais, ouais. Mais c'était cool, j'ai vraiment appris plein de choses. Et puis à la fac, en même temps, on étudiait du Schoenberg. Et puis on faisait. Dernière année, c'était écriture de quatuor à cordes en style de Schubert, quoi.
Ah, génial.
Enfin, c'était trop cool.
Ouais.
C'était vraiment trop bien. Et en termes de jeu, à cette époque-là, j'écoutais beaucoup Rosanna Winkel, quand même.
Ouais. Okay.
Beaucoup comme. Enfin, c'était vraiment un peu la mode à l'époque. Et donc, j'ai essayé d'avoir le même son, j'ai essayé de jouer comme lui et tout.
Ouais.
Et j'avais mon premier quintet à l'époque pour jouer mes compos.
Ouais.
Avec des mecs qui étaient super d'ailleurs. Qui étaient plus âgés que moi en général. Et on a commencé à faire quelques concerts et. C'était cool, enfin, dans un lieu à Paris où on gagnait 20 balles pour le groupe.
Ouais, mais enfin, c'est.
Bon, la
ouais.
soirée, mais bon, voilà.
Ouais.
Et je commençais déjà à me bouger les fesses pour essayer d'organiser des concerts, okay. des trucs comme ça.
Okay.
C'est marrant quand j'y repense.
Ah, oui, ça vient aussi de là, quoi. Ouais. Même des groupes que tu avais avant dans Metal.
Oui,
ce truc-là,
ouais, remarque, ouais. Je veux dire, j'étais pas forcément moteur dans les groupes, mais si, c'est vrai que j'étais souvent. Ouais.
Enfin, tu sais, c'est aussi une hygiène de se voir, ouais. de même passer un moment, mais de ouais. travailler aussi.
Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et esthétiquement, je me souviens d'un moment où je me suis dit que j'allais arrêter ce groupe-là.
Ouais.
Parce que j'avais besoin de me recentrer sur l'instrument, en fait.
Ok. Ouais.
Je me disais, là, c'est un peu n'importe quoi. Enfin, je sentais que j'avais besoin de base. Et ça, c'était quand j'étais genre troisième année de fac ou un truc comme ça.
Okay.
Je sentais que, bon, là j'essaie de jouer comme Rosanna Winkel, mais en fait Rosanna Winkel il joue les standards ouais. monstrueux. Et je suis à la fac, j'avais fait un exposé sur Ducret.
Ok.
Il m'avait répondu par mail à plein de questions, il m'avait faxé les partitions aussi.
Ah, génial.
Trop bien. À l'époque, on ne rigole pas. Et j'avais compris aussi que Marc, il avait commencé à 16 ans en faisant du baloche.
Ouais. Ouais.
Et qu'il avait bossé les standards comme un gros taré qui jouait beaucoup les standards avant de rencontrer Tim Byrne.
Ouais.
Du coup, je me suis dit, en fait, que je manquais complètement de légitimité, même si je voulais jouer plus ouvert, moderne et machin, que si j'avais pas au moins une petite maîtrise des standards, du langage, du bop et tout, que j'arriverais à rien, quoi.
C'était uniquement une histoire de, en gros, travailler ça pour avoir la légitimité de faire autre chose, mm-hmm. où il y avait aussi une notion de plaisir à jouer ce répertoire.
Oui, il y avait aussi une notion de plaisir.
Ok.
Ouais, ouais.
T'avais envie de creuser ça aussi.
Oui, j'avais aussi envie de creuser ça. Mais du coup, j'ai arrêté ce premier quintet là, pour me dire j'ai besoin de me recentrer sur l'instrument, j'ai besoin de bosser beaucoup, d'apprendre des standards.
Arrêter un quintet pour ça.
Ouais.
C'est le premier, hein, parce qu'après, c'est le second quintet de Paul Jarret.
Non mais c'est rigolo, on avait enregistré un album avec ce groupe là. Du coup ouais, pendant je dirais 3-4 ans, j'ai beaucoup bossé standard et plus la tradition et tout ça. Et donc j'ai tout ça en même temps que la fac, que les conservatoires, et après avoir eu mon CFEM, je crois, le diplôme de fin de troisième cycle, j'ai pu rentrer au CRR de Paris. Et là j'avais fini la fac aussi la même année.
T'avais quel âge à ce moment-là ?
J'avais
23.
Ouais, 23 ans. J'ai fait le CRR à plein temps, enfin, tout en donnant des cours, quoi.
Genre, tu faisais plus que le CRR ?
Je faisais plus que le CRR, parce que j'avais eu ma licence, et je n'ai plus que le CRR. Et la deuxième année de CRR, c'est là où j'ai monté ce qui allait devenir PJ5.
Ok.
Et après, et pendant la deuxième année de CRR, j'ai eu la chance de commencer à bosser, en fait. Alors, je commençais déjà à bosser dans le sens où je commençais déjà à faire des gigs et tout.
Ouais, c'est ce que j'allais te demander, genre, ouais. T'étais pas mal sideman à l'époque?
Ouais.
Ouais.
Enfin, sideman, non, parce qu'on m'appelait pas forcément, mais je faisais des plans dans des gigs dans les brasseries. Je commençais à faire des trucs de stand.
C'est ce que j'entendais par sideman.
Oui, oui, oui.
Alors, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je connais surtout ta carrière de leader.
Oui, oui, oui.
Mais du coup, t'es quand même passé par ça, quoi.
Ouais, mais c'est souvent moi qui organisais quand même déjà.
Ok.
Ouais.
J'allais démarcher les bars pour trouver des gigs.
T'étais à l'initiative des trucs, quoi.
Souvent, ouais. Pas à chaque fois, mais je commençais à faire un peu de gigs événementiels aussi pour des mariages, des trucs comme ça.
Carrément.
Au CRR, oui. Et donc, j'ai eu la chance de faire quelques rencontres au CRR et de pouvoir commencer à jouer dans un spectacle musical, en fait. Avec une chanteuse qui était beaucoup plus âgée que nous, et dans le groupe c'était avec Théo Sekaldi et Florian Satch à la batterie.
Ok.
Et avec ce spectacle-là, on l'a joué. En fait, c'est grâce à ce spectacle-là que je suis assez vite devenu intermittent.
Ah, d'accord.
Okay. T'es rapidement devenu intermittent.
Ouais, j'ai eu la chance de tomber sur ce point-là, mine de rien. Et ce spectacle-là, on l'a joué. Alors, on avait des espèces de résidences où on jouait genre une fois par semaine dans des théâtres parisiens, en fait. Genre sur les grands boulevards ou à la Gaîté Montparnasse. La Gaîté Montparnasse, pendant un an, on jouait une fois par semaine.
Okay.
Je me souviens que, je sais plus sur les grands boulevards, je sais plus dans quel théâtre, on jouait pendant tout un hiver, on jouait 4 ou 5 fois par semaine.
Tu sais que tu prends un sacré coup de vieux en parlant comme ça.
Ouais,
parce que
ouais,
tu sais, on dirait les vieux de la vieille.
À l'époque,
il y avait 3 concerts par semaine.
Et 3 services par semaine.
C'était dans les clubs, une semaine. Hein. Une semaine dans les clubs. Les Américains, ils prenaient une réplique française.
Ils en avaient l'hôtel en face, c'est ça.
J'ai joué avec John McNuggets, tu connais. C'est le meilleur saxophoniste de John Pizza Pan.
Moi, j'ai joué avec Chet, hein.
Je connais pas.
Ouais, mais c'était pas du jazz. Enfin, c'était pas du jazz. La musique était quand même assez jazz, mais le répertoire, c'était des chansons françaises de l'après-guerre et tout. Et c'était marrant parce que c'était avec Théo et Florian. Ouais. Donc après, on a pris des. Enfin, Théo est devenu une superstar mondiale du jazz. Ouais. Et du coup, j'ai vu ça.
Tu en as été témoin.
J'en ai été témoin complètement.
Tu l'as vu briller.
Je l'ai vu.
C'est l'uranium. Hein,
oui, c'est beaucoup. Je l'ai vu faire sa métamorphose. Ouais. Et c'était assez impressionnant, en fait.
Ah ouais.
Mais déjà, avant sa métamorphose, où il était. Où, tu vois, physiquement, il n'est pas du tout le. Il n'avait pas du tout le truc qu'il a maintenant. Ouais. Il avait quand même une espèce de présence sur scène qui était hyper impressionnante et que les gens remarquaient, en fait. Ouais. Même si c'était la chanteuse, la star du spectacle. Lui, il avait un truc que les gens.
Qui était remarquable.
Ouais. Et c'était fou. Et du coup, c'est pas étonnant qu'il ait.
La carrière qu'il a aujourd'hui.
La carrière qu'il a, ouais. Qu'il avait déjà un truc de charisme, en fait. D'aura, enfin, je sais pas quoi dire, mais qui fascinait les gens.
Qui fascinait ?
Ouais.
Genre.
Bah, genre, quand on dédicassait à la fin, c'était vraiment que des publics de vieux et tout, c'était l'enfer. Mais,
c'est sympa pour eux, merci.
Non, mais c'était vraiment que ça, vraiment la moyenne d'âge.
J'écoute dans un EHPAD.
Non, mais la moyenne d'âge, c'était 75 ans du public. Quoi. Ouais. C'était
les gens qui connaissaient les chansons quand elles étaient sorties.
Oui, c'est ça. Ça me rappelle ma jeunesse. Ah, vous chantez vraiment comme Juliette Gréco, c'est formidable.
J'ai très bien connu Juliette Gréco.
Mais bon, ça m'a apporté plein de choses, ce spectacle. Et ce spectacle, on l'a joué plus de 200 fois, quoi. C'était vraiment.
Pour banal.
Ouais. Et ça m'a appris aussi le truc de jouer un même spectacle, les mêmes chansons avec les mêmes arrangements 200 fois.
200 fois.
Enfin, voilà, c'est marrant de repenser à ça.
Oui, donc du coup, là, t'étais. Plonger dans
voilà,
un
truc. Tu faisais le métier.
Je faisais le métier, tout à fait. Mais c'était cool parce que ça m'a, très concrètement, ça m'a permis d'être intermittent très vite.
Ouais.
Du coup, de plus avoir à donner tant de cours que ça,
ouais.
Financièrement, quoi.
Ouais.
Et
ouais.
D'avoir du temps déjà pour écrire, pour écrire mon projet, pour commencer à enregistrer des maquettes et avoir un peu de sous à investir dans les projets musicaux.
Tu réinvestissais un peu dans les.
Ah bah ouais,
c'est marrant ce lien avec Ducret. Je trouve ça super.
Ouais. Ouais.
C'est drôle, quoi, ce petit...
Après, j'en suis pas mal éloigné, parce que du coup, j'étais plus dans un truc de standard, ou de ce qu'on appelait le jazz moderne new-yorkais, quoi.
Ouais.
Un peu genre, la clique Arzeninkel, Mark Turner et tout ça.
Ouais.
Et du coup, Ducret et un peu tout le jazz français, en fait.
Ouais.
Ça me plaisait moins.
Ouais.
Et puis... Et après, bien après le CRR, je me suis plus en plus intéressé aux musiques plus libres, quoi.
Ouais.
De plus en plus improvisées. Ça m'a intéressé d'essayer d'en faire. Et puis je me sentais beaucoup plus légitime, parce que quand j'avais genre 20 ans, j'essayais de faire des trucs à la Ducret, sauf que j'entendais rien en fait. Ouais. C'était vraiment, pour le coup, vraiment n'importe quoi. Ouais. Alors que là, déjà quand je réécoutais Ducret, je comprenais beaucoup plus les phrases, la logique, ouais. Enfin, l'oreille est beaucoup plus précise, quoi.
Ouais, ouais, bien sûr.
Et du coup, le jeu est lié à l'oreille, donc. Voilà, ça m'a de plus en plus intéressé et je suis allé de plus en plus vers. Je suis retourné vers les musiques plus libres.
Okay.
Et musique trad, ça t'a gardé. Enfin, c'est juste, je rebondis sur le truc, ouais. Quand tu parlais de musique irlandaise, tu vois. Ouais. Là, effectivement, dans Emma, on joue quand même la musique trad suédoise. C'est un truc que t'as toujours gardé. Ouais. Parce que dans l'écriture, dans ton écriture, on retrouve, je trouve des mécanismes en fait, pas effectivement très liés à la pop et tout ça, mais.
Ouais.
Moi je trouve qu'ils sont pas sans rappeler, enfin, tu vois, quand on a joué des espèces de vieilles chansons suédoises ensemble,
oui,
tu vois,
ouais.
Trucs qui sonnent à la fois très baroque,
ouais, oui.
Et en même temps assez pop, des fois, enfin folk, alors, tu vois.
En fait, le côté baroque, c'est vraiment dans les vieux morceaux trad instrumentaux, quoi. Et dans la musique suédoise, il y a aussi toute une, enfin, comme dans plein de musiques trad européennes, il y a toute une tradition de chansons.
Ouais.
D'où vient la musique folk, en fait.
Mm.
Parce que le truc justement d'immigration de, c'est ça que je trouve vachement intéressant, le truc d'immigration de l'Europe vers les États-Unis, c'est ça qui a un peu fondé les États-Unis tels qu'on les connaît aujourd'hui, et du coup de migration de toutes ces musiques traditionnelles européennes qui sont mélangées aussi avec le truc de gospel, blues, et du coup ça crée un gros bordel qui est génial, mais tout le truc de music old time aux États-Unis, musique des Appalaches, et qui est vraiment directement lié à la musique, aux musiques traditionnelles européennes.
Ouais, carrément.
Il y a des morceaux en trad irlandais qu'on retrouve joués d'une certaine manière par les mecs qui jouent du bluegrass.
Et puis tout le répertoire de ce qu'on appelle des ballades.
Ouais.
Les Appalaches, c'est beaucoup de chansons anglaises.
Oui, c'est ça, ouais.
Et elle est la.
Ou écossaise.
Et t'as plein de chansons dont la thématique c'est, soit je travaille au chant, quoi.
Ouais.
Et sinon, c'est j'ai pris le bateau, quoi.
Ouais, oui.
T'as plein de chansons dont la thématique c'est ça. Ma meuf ou mon mec a pris le bateau, quand est-ce que je vais la revoir,
qu'on retrouve dans la musique suédoise aussi, c'est là-dessus que je me suis concentré pour le projet Emma.
Ouais.
Donc ça m'a toujours accompagné. Le côté folk aussi, le vrai côté folk, genre, je sais pas, Bob Dylan, ça c'est un truc, pareil, mes parents écoutaient vachement Bob Dylan, et c'est un truc que j'ai toujours adoré. Toute la guitare, fingerpicking et tout, ça, j'adore, quoi.
Ouais.
Et donc ça fait partie un peu de ma culture.
Ouais.
Et j'ai la musique trad irlandaise, j'ai découvert un peu grâce à mon copain Arwin, là, qui est vraiment un ami d'enfance, qui est violoniste. Et du coup, violon, lui, ça lui a plu la musique irlandaise, donc on a commencé à en jouer ensemble. Mais après, moi, ça m'a vachement plu et j'ai fait un peu la connexion avec d'autres trucs que j'écoutais. Et c'est passionnant tout ça, en fait. Justement, avec toute la musique américaine et puis. De par mes origines suédoises, j'ai commencé à fouiller la musique traditionnelle suédoise. Et là aussi, le lien avec.
Particulièrement riche en plus. Enfin, je veux dire,
qui est une autre richesse harmonique et rythmique surtout que la musique purement musicalement, qui est peut-être un peu plus intéressante que la musique traditionnelle irlandaise.
Ouais.
Même s'il y a des mecs qui jouent de l'irlandais. Monstrueux et même de manière moderne.
Et t'as pas trop creusé la musique auvergnate et tout ça?
Eh ben non.
C'est un sacré
un peu assez non mais carrément, je le connais vraiment pas bien. Mais toutes les musiques centre-France et les musiques bretonnes aussi, il y a plein de trucs super, mais c'est tout un autre monde que j'ai pas trop creusé, mais qui est vachement intéressant.
Ouais, c'est clair.
Et oui, c'est tout un truc. Toutes les musiques à danser, toutes les musiques trad.
Ouais, complètement.
Toutes les bourrées et tous les. Enfin, c'est passionnant, et puis il y a toutes les musiques d'Occitanie aussi.
Tout à fait,
c'est tout un monde à creuser à chaque fois, en fait. Et on peut vite s'y perdre. Donc, moi, je me suis concentré un peu mal sur l'irlandais, sur le suédois.
Ouais,
parce que c'est ce qui me parlait le plus aussi. Mais bien sûr que musique française.
Il y en a des terroirs incroyables, quoi. Et d'ailleurs, il y a un peu une renaissance, j'ai l'impression, qui n'a jamais été mort, mais il y a des jeunes aussi, jeunes personnes qui font revivre un folklore et réinventent à partir de ce folklore-là et de cet univers-là.
Et puis là, le retour de la culture du bal folk aussi.
Oui, tout à fait, c'est clair.
Mais oui, je suis sûr que à Orléans, justement, on parlait de Théo et Florian.
Ouais.
À Orléans, ils sont pas mal dans ce truc-là aussi de... Je sais plus comment ils s'appellent, mais il y a des mecs qui jouent de la vielle et qui font de la musique improvisée avec.
Ok.
Donc,
il y a Novia qui fait ça. Il y a un collectif qui s'appelle La Novia.
Ok, ouais, je connais.
Qui est un collectif de musiciens musiciennes. Autant qu'ils sont vraiment dans une réécriture de ça, mais aussi dans, dans des délires d'impro. Et, c'est vraiment intéressant, La Novia. Et notamment un type au... un musicien violiste qui s'appelle Jacques Puech.
Erratum, j'ai confondu le sonneur de cabrette Jacques Puech avec le violiste Yann Gourdon. Autant pour moi.
Okay. La vielle à roue, mais complètement soit impro, soit musique contemporaine.
D'accord. Okay.
Jacques Puech, qui fait partie du collectif La Novia. C'est vraiment intéressant, il y a plein de choses intéressantes dans ce
Film. Yes. Ah, mais il y a un mec qui joue de la... la cornemuse aussi, je crois, un breton, forcément, qui joue.
Erwan.
Qui joue avec Julien Després, je crois. Et,
C'est le mec. On l'a vu jouer.
Vu à la Turbella. Carrément, lui.
Mais il y a tout un truc hyper intéressant.
Il est sonneur.
Et en Bretagne, il y a toute une scène intéressante. Bah, il est mort il n'y a pas longtemps, mais Jacques Pélène, qui était intéressant aussi, qui était pas musique improvisée, mais un guitariste de Brest, enfin de près de Brest, qui était hyper intéressant. Alors lui, qui était plus dans une génération années 80-90, mais qui a joué sur certains de ses disques avec Kenny Wheeler, il a joué avec Ricardo Delfra, et lui, il joue de la folk, quoi. Ouais.
Ok.
Et il y a des trucs vraiment intéressants dans cette espèce de rencontre musique trad et jazz.
Ouais. Sans forcément les mauvais aspects qu'on peut imaginer d'une fusion des deux genres.
Non, bien sûr, mais souvent ça restait souvent acoustique. Il y a des trucs qui sont peut-être un petit peu datés maintenant parce que c'était un son d'époque, quoi. C'était un musicien passionnant, quoi. Thank you.
C'est quoi alors du coup tes influences protection?
En trois noms.
Un truc que j'ai toujours eu, je pense que c'est l'importance de la mélodie.
Ouais.
Et justement, je vous parlais de mon premier quintet, c'était vraiment un truc très mélodique de thèmes qui sont très forts et qui ont une grosse importance. Et qu'il y a toujours, même dans le disque avec Jim Black, là, il y a toujours ça. Sauf qu'il y a une espèce de contexte beaucoup plus mouvant et beaucoup plus free, alors qu'à l'époque, il y avait des accords. Donc il y a ce truc d'importance de la mélodie et... Je sais pas, je me demande si ça vient pas un peu de la musique suédoise aussi, parce que la musique suédoise est très 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 mélodique, ouais. Aussi bien folk que aussi tout ce qui se fait en pop rock, voire même en musique un peu électronique, enfin en dance et en house. Je crois qu'il y a une grosse scène house en Suède.
Ah ouais.
J'y connais rien, mais après la Swedish House Mafia. T'as pas entendu parler de ça?
C'est une vanne ou...
Non, c'est pas du tout une vanne. Non, il y a vraiment une grosse scène suédoise.
Swedish
House. Alors je sais pas où ça en est maintenant, mais la Suède, pendant très longtemps, la Suède était le deuxième exportateur mondial de musique dans le monde.
Ah ouais.
Après les États-Unis, bien sûr.
Ouais.
Ouais. Ouais, il y a plein de groupes qui sont suédois et on sait pas qui sont suédois. J'ai plus.
Ah bah.
Non mais oui, ah bah
oui, bravo.
Non mais il y a plein de, j'ai plus d'exemples en tête, mais il y en a beaucoup en fait.
Ouais.
Okay. Des producteurs, enfin des trucs. Et enfin je sais pas, j'en sais rien, mais.
Tu parlais de l'importance de la mélodie. Donc,
ouais, de la mélodie et ouais la musique folk et pop rock aussi, qui, enfin j'ai toujours écouté surtout du rock et. Ce truc de son aussi, d'importance du son en fait.
Ouais.
Et
de comment musique. L'importance du son, tu penses au caractère sonore quand tu écris?
Au timbre, pas forcément, et tout ça? Pas forcément quand j'écris, pas forcément quand j'écris, mais en tout cas dans le son de groupe. Okay. Je pense que j'y suis très attentif. Et ensuite dans le processus d'enregistrement et de mixage et tout. C'est j'ai du mal à faire un disque où on met 3 micros à l'arrache et puis ensuite on fait une mise à plat et puis
c'est bien que ce soit produit. OK,
une son soit soigné en tout cas. Qui a un point de vue et un parti pris.
Ouais. Une démarche artistique aussi dans le soin du son.
Ouais.
Dès la prise de son jusqu'à la post-production.
Oui. Ouais. Même si pour Emma c'est très acoustique par
exemple. Ouais. Mais ça peut être un parti pris.
Mais c'est un parti pris aussi et j'ai du mal à écrire de la musique pas diatonique, en fait.
Alors, t'as du mal, ça veut dire que t'as essayé?
Je crois, ouais. Je crois, ouais, j'ai essayé d'écrire des trucs un peu plus tordus.
Je sais pas, je trouve ça intéressant comme truc. Enfin,
j'ai l'impression que
de psychologie de bas étage, mais ouais, juste ce truc de démarche, de se dire... ça me semble assez naturel hein, de dire ok, je sais faire ça, essayons de faire autre chose quoi.
J'ai essayé un petit peu et malgré moi je retourne à des trucs de musique tonale et s'il y a des espèces d'approches, des trucs un peu plus chromatiques et tout ça, mais
du coup tu trouves ton compte en tant que de ce que tu chantes, de ce que tu as envie d'entendre.
Vaste question.
Mais intéressante question.
Question.
Parce que comme si tu cherchais, du coup, toi, tu dis, t'as cherché à aller au-delà de ça, parce que t'avais envie d'entendre des trucs ou de t'emmener dans cet univers-là, mais parce que tu trouvais un truc où t'avais plus ton compte dans la musique diatonique tonale.
Non, parce que j'adore toujours ça,
et
j'ai toujours envie de faire ça.
Ouais.
Et mais comme je m'intéressais à des musiques un peu plus complexes harmoniquement, ou plus libres aussi, genre qui sont allés jusqu'à du noise, mais il y a des musiques qui sont vraiment sur le son brut,
sur les textures.
Et malgré ça, même si j'essaie d'incorporer de plus en plus ces aspects-là à ma musique, j'ai l'impression de retomber toujours dans un truc de chanson en fait. Et c'est avec ce constat-là aussi que quand je réfléchissais au projet avec Jim Black et Joseph et Julien, je me suis dit, j'ai pas envie de me forcer à écrire des trucs. Le groupe s'appelle Ghost Songs.
Ouais.
Et j'ai eu envie d'assumer ce truc-là de chanson. Mais par contre, de genre de mélodie simple, mais par contre, jouer dans un espèce de contexte et d'interplay.
Ouais.
Beaucoup plus mouvant et beaucoup plus libre.
Ouais.
mais tout en assumant ce truc de qui me touche, qui est, je pense, ce qui me touche le plus, qui est l'importance de la mélodie, en fait. Et je reviens toujours à ça.
Et t'as eu ce truc de... Je sais pas comment dire ça, moi j'ai eu vachement ça. Enfin, moi j'ai un rapport à l'écriture qui est quand même assez... Je pense comme plein de gens, mais qui est assez...
Compliqué.
Enfin,
qui pose des questions, quoi.
Ouais, j'ai eu vachement de complexes par rapport à ça pendant longtemps. Ça a été vraiment un truc difficile pour moi de m'y mettre. Et puis surtout de légitimité, en fait. Ouais. Question de légitimité et surtout de me dire, genre, en fait, ce que je vais écrire, on l'a entendu mille fois, ça n'a aucun sens, tu vois. J'ai vachement dédramatisé le truc et enlevé le fantasme. Enfin, j'ai causé avec des potes dont j'admirais le talent de compositeur.
Ouais.
Tu vois, je pense à Timothée, par exemple, qui était coste, tu vois, des gens comme ça, qui vraiment, quand il écrit, il y va, tu vois, il fait pas semblant, quoi. Et qui me disait,
quand
genre,
il écrit pas, il écrit pas.
Mon gars, il fait pas semblant. Non, mais tu vois, où c'est quand même quelqu'un, voilà, moi, objectivement, j'ai toujours adoré sa musique. Qui peut-être ne plaît pas à tout le monde, je pense, tu vois.
Tu penses au Costet, par exemple?
Moi, je l'ai rencontré, Timothée. Alors, quand je dis que j'ai toujours aimé sa musique, c'est pareil, parce qu'au début, on ne s'entendait pas très bien. Parce que moi, j'ai joué comme Rebrand, donc... Costet, si tu veux, c'était pas ta fin de mon délire. mais...
Pourquoi pas, il y a un truc à inventer.
Le Costet, puis surtout, quand je l'ai vu évoluer au CNSM, tu vois. C'est quand même un mec qui proposait des trucs costauds, jusqu'à son prix de master, c'était fou, quoi.
Ouais.
Et juste quand j'ai parlé avec lui un peu d'écriture, où il me disait genre pour moi aussi c'est horrible. Mmh. Tu vois, genre pour moi aussi c'est hyper
difficile. Je pense que pour tout le monde. Hein.
Ouais, bien sûr. Mais du coup, ce qui m'intéresse dans ce dont tu parlais de démarche, de. Je vais essayer d'écrire autre chose.
Mmh.
Ça fait résonner en moi le truc de moi j'ai beaucoup écrit en disant non, il faut que j'écrive de telle manière. Parce qu'en gros, si je schématise vraiment.
Mmh. Mmh.
C'est comme ça que ça va être cool. Enfin, c'est ça qui est bien, en fait. C'est comme ça qu'il faut écrire. Quoi. Pour que ce soit intéressant, pour que ce soit...
Tu mets déjà un troisième oeil, du coup.
Ah mais de ouf.
Troisième oeil.
T'as même pas commencé d'écrire ce que t'as dans les oreilles. T'as même pas encore essayé de te chanter un truc. T'es déjà genre... Tu vois, moi, au CNSM, j'ai rencontré des gens qui écrivent avec des concepts, des trucs, des machins, tu vois. Et du coup, je me bloquais dans des trucs de... Mmh. Il faut qu'il y ait un concept, tu vois. Et en fait, j'écrivais avec des concepts. En aspirant des maths, moi qui ai toujours été une brêle en maths, mais tu vois, alors phénoménal, tu vois, et où j'écoutais les trucs, j'étais, ah non, c'est pas beau, c'est pas que c'est tendu ou out ou quoi, c'est pas bien. Et du coup, mais en même temps, c'était intéressant parce que ça m'a permis d'apprendre aussi d'autres façons d'écrire, c'est de clair, chercher d'autres trucs. Mais du coup, je me demandais si toi, quand t'écris, quand tu dis je vais chercher d'autres choses, tu vois, il y avait aussi cette. Ce truc-là de...
Ce truc de légitimité, alors autant j'ai eu vachement cette question sur le jeu, justement, sur le rapport à la tradition, sur le rapport au langage et tout ça.
Tu l'as toujours un peu, non?
Oui, carrément, bien sûr, oui. Mais je me pose un peu moins de questions.
Tu te soignes?
Ouais, je me soigne, carrément. Non, mais j'ai peut-être un peu plus de confiance en moi aussi qu'avant, là-dessus. Et puis j'ai l'impression de m'être retrouvé. Aussi, un peu plus et un truc que je travaille vraiment beaucoup, c'est de trouver mon langage à moi et ma personnalité. Mais sur la composition, j'ai l'impression de assez tôt, je me suis jamais trop posé de questions sur la légitimité, dans le sens où j'arrivais vite à écrire des trucs qui sonnent, des trucs qui sonnent bien. Après, est-ce que c'est des trucs que je voulais faire, ça, je sais pas, mais c'est des trucs qui marchaient, qui fonctionnaient. Justement avec ce premier quintet là, je trouvais une mélodie, je mettais des accords, j'ai changé une idée de ligne de basse, ça fonctionnait, quoi. Après, c'était pas forcément bien, mais ça fonctionnait. C'est des trucs, c'était des mélodies que les gens écoutaient, qui étaient un peu accrocheuses, on faisait des solos après, enfin, c'était du jazz, mais et ce truc de mélodie qui fonctionnait, qui était assez évident, quoi, même si c'est un peu prétentieux de dire ça, mais. Par contre, après, c'est. Qu'est-ce que j'en fais? Où je veux aller avec ça? Donc quelle esthétique j'ai envie de développer, en fait.
Ouais.
Donc c'est pas vraiment sur le fait d'écrire dans le sens pondre un truc.
C'est le chemin que tu veux prendre.
C'est où tu veux aller. Ce que je veux en faire, en fait.
Et tu
Du coup tu te poses des questions d'esthétique.
Ouais. Ah, beaucoup,
tu te dis, qu'est-ce que je veux défendre ou travailler ou dans quoi je vais me développer esthétiquement.
Ouais, carrément. Et chacun de mes projets a une direction esthétique assez, assez claire.
Okay.
Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de projets.
Ouais. Cocotte de légumes printaniers au curcuma.
Qui définit le projet ? Enfin, je sais pas. Je sais pas, t'as des gens qui vendent des projets en pensant déjà aux gens, enfin tu vois, en pensant avant tout aux gens avec qui ils vont jouer ou...
Oui, ça peut aller ensemble aussi, ouais.
Et du coup, comment t'établis ces choses-là ? Est-ce que c'est par référence ? Par exemple, tu dis, bah, ce groupe-là, j'entends bien sonner comme ça aussi parce que j'ai telle référence dans la tête, j'ai telle... Est-ce que ça vient de là ? Est-ce que ça vient...
Ça joue, je sais pas, ça dépend des groupes.
Ouais.
PJ5, par exemple, c'est un groupe qui est tellement vieux que ça a évolué.
Ouais.
Il y avait déjà à la base ce truc un peu de son pop rock,
ouais,
avec le truc encore mélodique assez évident. Et tout ça, on a vachement évolué tous, individuellement, collectivement aussi. Donc là aussi, ça suit un peu mon évolution, c'est-à-dire qu'on va plus vers un fonctionnement de plus en plus libre. Mais il y a quand même des trucs, des moments où j'ai en tête un son où il y a une espèce de riff de basse avec des gros subs et un truc très rock limite metal et ensuite une mélodie. Enfin,
okay.
C'est je pense le groupe pour lequel je suis plus directif.
Okay.
En même temps, il y a des plages d'impro qui sont complètement libres, qui peuvent durer très longtemps. Chose qu'il n'y avait pas trop au début parce que c'était plus jazz, donc il y avait des grilles et tout.
Okay. Ouais.
Maintenant, il y a aussi parfois des grilles, mais c'est beaucoup plus.
Je suis en train de repenser à Emma, À Emma, il y a très peu d'improvisation sur des grilles, en fait.
Ah bah, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas.
Et c'était, là aussi, c'était une volonté, parce que je voulais un truc un truc très très différent. Déjà, d'instrumentation, d'esthétique.
Mais du coup, c'est marrant. Là, pour le coup, je vois un peu comment tu travaillais avec Emma, mais je ne sais pas si c'était comme ça pour tous les groupes. Mais pour le coup, avec Emma, on en avait parlé déjà avant même de répéter.
Ouais.
Où c'était pas spécialement très clair la façon dont allait être exécutée la musique.
Tout à fait.
Tu avais un répertoire que tu voulais jouer, des originaux et des trads, en gros.
Ouais.
Mais c'était. Il y avait énormément de liberté laissée.
Ça faisait partie.
Et des libertés d'arrangement, quoi.
Ouais, ouais.
En fait.
Ouais. Mais c'était une volonté.
Ouais.
Alors que je peux être beaucoup plus directif. Ouais.
Ok.
Ouais.
Mais tu savais qu'en. Bah là, je prends mon cas à moi.
Mmh.
Je sais qu'en tant que musicien accompagnateur, enfin plutôt membre de groupe, plutôt que tu vois, que je sais que je prends de la place.
Ouais.
Bon, parce que je dis beaucoup de conneries déjà, mais parce que aussi,
physiquement aussi,
c'est assez grand. Puis
tu vas être bourré à chaque répétition.
Je suis ivre mort à chaque répétition. Il y a ça aussi. Ça, c'est vrai que rien que pour l'odeur déjà. Mais non, mais tu vois, je sais que naturellement, et des fois, je m'en excuse même en direct parce que
je. Justement, je voulais te parler de ça.
Ça tombe bien qu'on soit. C'est une intervention, non ?
J'ai mangé dans la cuisine.
Non, mais tu vois, souvent je m'en excuse, surtout sur les premières répètes avec les groupes dans lesquels je rentre, parce que j'ai peur des fois que ça prenne trop de place. Mais moi, je sais que quand on m'appelle dans un groupe, j'aime bien donner mon avis, pas en genre ça va pas, ça machin, mais juste dire ah bah moi j'entends ça.
Mm-hmm.
Et moi j'aimerais bien faire ça, tout ça. Et du coup, t'as monté ton équipe en sachant ça ?
Bah, bien sûr.
Bah, je connaissais pas tellement.
Non. Non, on avait déjà eu, je sais plus à quelles occasions, mais on avait déjà eu des discussions sur la musique, quoi.
Mm.
Sur la musique qu'on aimait, sur ce qui nous intéressait dans la musique. Et ouais, bien sûr. C'était une. Pareil pour Anna. Alors, Anna, la chanteuse, donc je la connaissais déjà, j'avais déjà joué un peu avec elle. Je savais ce qu'elle pouvait proposer, je connaissais son son. Et Léonore, par contre, la joueuse de Nickel Herpage, je la connaissais pas, mais j'en avais entendu parler. Et puis, de toute façon.
Qui vient pas spécialement des musiques improvisées.
Qui vient pas du tout des musiques improvisées, qui est vraiment plus du trad. Mais qui avait déjà. Enfin, je cherchais quelqu'un qui joue Nickel Herpage. Qui peut lire la musique un minimum, ce qui n'est pas évident dans le milieu de la musique trad,
bien sûr,
et qui a les oreilles ouvertes.
Ouais.
Et là, bingo quoi.
Bah là, ouais, c'est un bingo, mais bon, Léonore, ouais, c'est quand même.
Ouais,
c'est un truc, hein.
Ouais.
Enfin, je sais pas si t'as déjà écouté cette.
Non.
En fait, si t'as écouté.
J'ai écouté des rushs, mais ouais.
Bah, franchement, là où j'ai vraiment halluciné avec Léonore, c'est quand on a commencé à faire de l'impro, tu vois.
Ouais. Ouais.
Avec direct, ouais, direct dans le son, direct,
dans le son tout. Et puis en plus dans le son, parce que aussi il faut dire une chose, c'est que l'instrument qu'elle avait était à peu près, tu vois, c'est un peu une batterie dans un groupe de jazz ou dans un groupe de rock. Genre vraiment, c'est le truc qui définissait le son de l'ensemble. Ouais, okay. Et donc elle te fait deux sons fendus, un drone et trois grincements de cordes, tu fais oh, incroyable. Ouais. Et en plus de ça, elle avait les oreilles mais méga ouvertes.
Et sans jamais se poser de questions.
Ah, ouais, et, incroyable.
Et avec de l'enthousiasme, mais tu as toujours un truc.
Ouais, incroyable. Ouais.
Ça peut penser à un truc juste post-it. Est-ce que tu connais Jean-François Vrault?
Non.
Super violoniste, conteur, et qui a fait du collectage en Auvergne, dans le Massif Central, qui fait de l'impro.
Ok.
Voilà, incroyable. Et je pense à Fred Aurier, qui est un duo avec Sylvain Lemaître, un percussionniste.
Oui,
et lui, Fred Aurier fait du nickel arpa. Et ils ont un super, ils ont enregistré, ils vont bientôt sortir un album, un duo qui s'appelle Super Clang. Okay. Nickel arpa, notamment violon de nickel arpa et percussion, et c'est incroyable. Moi, j'ai vu en live.
Ah, yes.
C'est incroyable. Okay. J'y pensais pour pas oublier quoi.
Les soustractions des fleurs, tu connais pas?
C'est un trio.
Je crois pas. Je crois que tu m'en avais parlé avec Benoît quand c'était croisé en train.
Oui, oui, c'est possible.
Mais ouais, j'ai pas écouté.
Bah, je t'enverrai les.
Grave.
Trop bien. Pardon, je vous ai coupé dans le truc, mais.
Non, mais c'est pas grave du tout. Mais. Ouais, du coup, les histoires d'esthétique. Là, en gros, si on résume, t'as. Enfin, je sais pas. Ouais, tu fais. Effectivement, il y a des trucs d'esthétique vraiment différents, et je pense que ça se situe surtout dans la manière d'exécuter et dans le choix des timbres. Mais il y a quand même une patte d'écriture. Tu vois, hier, avec Vincent, on s'est réécouté un peu tous les derniers trucs que t'as sortis avec tous les groupes, tu vois. Okay. Non, mais avec tous les groupes, tu vois, on a écouté.
Ça va.
Sinon, écoute, Vincent a aujourd'hui une vingtaine de jours d'ITT, donc il est. là, il mange actuellement dans une chaise roulante. Non, mais tu vois, on a écouté le teaser de PJ5. Mm-hmm. On a écouté le son qui est sorti de Ghost Dog, tu vois. Ghost Songs, pardon. Ouais. C'est Ghost Song numéro 4, c'est ça qui est sorti.
Il y a eu le groupe de Camille Durand.
Le groupe de Camille Durand, où là, bon,
c'est ça, je suis Sideman, mais
c'est Sideman.
Une chanson,
Sweet Dog, qui n'est pas du tout écrit.
Non.
C'est purement improvisé. Mm-hmm.
Ouais.
Mais même là-dedans, tu vois, je trouve qu'il y a une espèce de fil conducteur, comme si tu avais un fil conducteur qui tracer sa route, tu vois, et que t'appliquais des patchs. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ah ben là, en fait, j'ai envie de donner telle interprétation à ce fil conducteur-là, ce machin, tu vois, mais t'as quand même un truc qui trace.
Bah, c'est cool, bah, je trouve que c'est beaucoup plus bon.
Bah, ouais, je trouve ça vraiment intéressant, du coup.
Cool. Très bien.
Et d'ailleurs,
allez, on se bourre la gueule.
Ouais, mais putain, mais buvons, merde, on est des potes, quoi.
Mais d'ailleurs, j'ai une question par rapport à ce dont on parlait il y a un quart d'heure. C'est le fait que tu fasses de l'impro.
Ouais.
Libre.
Ouais.
Et que tu te dises aussi sur cette histoire-là d'écriture diatonique ou un truc.
Justement. Même, enfin, on parlait de Sweet Dog.
Ouais.
Qui est un groupe d'impro libre.
Ouais.
C'est l'impro libre dans le processus.
Ouais.
Mais dans la musique, ça sonne pas forcément impro libre.
Il y a des trucs hyper pop-rock.
Ouais, quand même.
Ouais, et là aussi, je retombe un peu dans mes travers. Mais
je t'ai vu avec Louise McMahon.
Ah oui,
ouais, vois, par exemple, un peu plus. Je t'ai vu dans des contextes où tu n'étais pas forcément sur tes gros patrons, où on était complètement sur un truc de texture.
Ouais.
C'est
vrai. Parfois, j'y arrive.
Bah, très bien,
mais c'est drôle parce que la façon que tu as de faire de l'impro libre est très nord-européenne dans le traitement du son. Ouais. Dans le, tu vois, il y a quand même un truc, enfin, dans tes choix de pédales.
Ouais.
Parce que ça, tu vois, je ressens vraiment, et qui colle à tous les trucs d'écriture aussi. Enfin, je trouve, du coup, tu commences à avoir vraiment. Je pense pas que tu commences à l'avoir, en fait. Je pense que de plus en plus, on peut voir, via tout ce qui est en train de sortir, parce que, en fait, sincèrement, sur les 5 dernières années, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Franchement. Non, mais tu vois, beaucoup de musique qui est sortie.
Vous voyez les cheveux blancs, là. Il y a deux enfants qui sont sortis aussi.
Donc tu vois, il y a vraiment une espèce de patte là, je trouve que tu commences à recentrer de plus en plus, tu vois.
Mais c'est en fait, je pense juste avant d'avoir mon premier enfant, il y a un moment où je me suis dit, je veux plus faire le bon élève qui sait tout bien faire.
Ouais.
Mmh. Avant c'était un peu ça quand même, je voulais savoir un peu bien tout jouer. Et je me suis rendu compte que déjà, c'est peut-être pas possible, ou en tout cas que moi, j'y arrivais pas du tout. Je serais jamais un guitariste de funk qui groove. Je ferais jamais de la bossa, alors que pourtant j'ai joué pas mal de musique brésilienne, mais Je pense que ça ne gouvait pas du tout. Voilà, je suis qui je suis, et du coup, il faut assumer ça, et c'est peut-être finalement ça qui est intéressant à creuser. C'est ma personnalité. Et à partir du moment où j'ai pris un peu cette décision de plus essayer de jouer du bop comme Tal Farlow, que j'adore, de plus essayer de jouer de la musique irlandaise comme John Doyle, que j'adore, de plus essayer de faire plein de trucs très différents, plutôt d'essayer de reprendre tous ces trucs-là que j'adore et de les traiter à ma manière et d'essayer de me trouver moi. En fait.
Accepter ton prisme à toi. Et
ouais, c'est ça.
Exactement le terme que j'allais employer.
Ouais.
Une histoire de prisme.
Ouais.
De comme si tu reçois les influences,
ouais,
mais tu les copies pas, juste tu les filtres avec un prisme à toi.
C'est ça.
Et ça devient
un truc d'avoir des statuts, genre il faut jouer comme ça, il faut savoir ça.
En même temps, je suis content d'être passé par cette phase-là parce que je pense que ça m'a fait beaucoup progresser en termes d'oreille, de jeu, de technique et tout ça. Ouais. Et c'est ce qui m'a forgé moi aussi, mais... Ouais. Et c'est à partir du moment où je me suis... Parce que c'est toujours délicat, par exemple, quand on t'appelle pour des gigs, de refuser.
Ouais.
C'est toujours délicat. Enfin, moi, j'ai du mal.
Pour plein de raisons.
Pour plein de raisons. Pour plein de raisons, mais...
Non, mais tu vois, ça peut être esthétique, ça peut être...
Financier,
enfin, tu vois.
Et à partir du moment où j'ai pris cette décision, justement, j'ai fait tout de suite beaucoup moins de gigs événementiels dans les mariages.
Ouais.
Parce que, aussi, je l'ai refusé, et puis, du coup, on m'appelle moins pour ça. Mmh. Et les quelques fois où on m'appelle, c'est pour ce que je propose vraiment. Mmh. Et du coup, c'est trop bien, en fait.
Mais ça, c'est hyper cool.
Mais ouais, ça, c'est génial.
Et ça t'a pas fait peur? On t'a arrêté de dire...
Si, carrément, mais... Si. Mais en fait, j'y arrivais plus. C'est ça le truc, c'est que j'avais plus le choix, finalement. Mm. Je dis j'ai pris une décision, mais c'est presque...
C'était vital, quoi.
Bah ouais. Enfin, vital...
Non, mais...
Je suis pas... Mais en fait, c'est que j'y arrivais plus, j'arrive pas à faire semblant. Et du coup, quand il y a un truc qui me plaît pas, j'arrive pas. Et des quelques groupes où je suis leader, les leaders ou leaderuses vous le diront d'ailleurs, il y a des trucs où je dis ah non.
Quand t'es sideman, tu veux dire
quoi? Ouais. Parce que, ou alors j'essaie de proposer un truc à moi où il y a des trucs que j'ai pas envie de faire et je ne les fais pas.
Ouais.
Et pour ça, je peux être pas forcément bon sideman, ou en tout cas, ça dépend dans quel sens tu l'entends.
Ouais.
Mais.
T'es pas forcément un sideman conciliant.
Non.
Ce qui veut pas dire un mauvais sideman.
Non. Voilà. J'espère.
Bah, il me semble. Enfin, c'est évidemment tout se joue dans des nuances de langage et tout ça, tu vois. Mais de façon de s'exprimer, tout ça, tu vois. Si tu vois que je viens d'écrire, c'est de la merde, ça m'intéresse.
Mais pas.
Effectivement, peut-être un peu violent, peut-être.
Avec Camille Durand, enfin Elinor, qui m'a appelé pour son groupe, son projet de quartet, c'était pour ma personnalité. Pareil, Loïs Levent qui m'a appelé pour son trio. Vince, c'était pour ce que je proposais aussi, et du coup ça c'est vraiment, c'est trop bien.
Ça, c'est trop bien.
J'ai pas beaucoup de groupes en sideband, mais à chaque fois c'est pour ce que je propose moi, donc c'est
Et est-ce que super. Attention, là on est dans... Je rentre dans une interview de Catherine Deneuve sur Psychology Magazine.
Vas-y, je t'en prie.
Vous êtes prêt? Est-ce que le fait qu'on t'appelle en tant que sideman, pour qui tu es, ça t'aide aussi à renforcer ta confiance en toi en tant que leader et pas leader au sens je dirige les gens, mais au sens je porte mes projets, quoi? Ou pas spécialement?
Disons que ça me rend de meilleure humeur.
Merci beaucoup. C'était la fin de ce podcast.
Non, mais enfin oui, c'est hyper bon pour la confiance en soi. Mais c'est pas parce qu'on m'appelle pas...
Tu vas perdre la confiance.
Non, c'est pas que je vais perdre la confiance. Je pense qu'il y a toujours un petit souci de confiance en soi, de toute façon. Enfin, ça va être chez qui, mais chez moi, oui. Et...
T'essayes de régler ou pas?
Bah oui, mais bon, en même temps... comme dit Blanche Gardin, tu sais, qui remercie sa psy... lui, c'est juste assez de névrose pour continuer à vivre de son métier.
C'est un peu ça, quoi.
Mais oui, ça fait du bien, mais en même temps, j'ai vraiment une idée claire de ce que je veux faire avec mes groupes. Et du coup, que j'ai une activité sideman ou pas, je le ferai, je pense. Pour l'instant.
Ouais.
Mais par contre, c'est vraiment fatigant de mener plein de projets c'est vraiment fatigant. Et le fait d'avoir du travail en tant que sideman, c'est alors déjà c'est intéressant artistiquement, musicalement, parce que du coup tu dois jouer la musique de quelqu'un d'autre. Et moi finalement j'ai pas tant l'habitude de ça. Et qu'est-ce que j'allais dire?
C'est pas dit. Enfin, c'est l'air de rouge, c'est trop.
Ouais. On a changé trois fois de cubi quand même. Ouais.
Enfin, la cubi de 10 litres.
Là, tu dis que c'était quand même une grosse une charge aussi de.
Oui, voilà. Oui, non, c'est quand même. Comme disait un ancien prof, c'est quand même agréable de. Tu joues dans un groupe et tout ce que t'as à savoir, c'est rendez-vous tout à l'heure à la gare pour aller au gig. Et,
effectivement, voilà. C'est autre chose. Ouais.
Parce que là, diriger les groupes, c'est la responsabilité artistique, mais aussi c'est toute la responsabilité d'organisation, administrative et financière et tout ça, et qui me demande beaucoup d'énergie aussi, parce que j'essaie de bien faire les choses et de faire en sorte que quand j'appelle des gens, ce soit pour travailler dans les bonnes conditions.
Tu le fais très bien.
C'est gentil. Mais du coup, ça me demande beaucoup de temps et d'énergie. C'est du temps et de l'énergie que je passe en moins sur l'instrument, sur la musique et tout, mais bon, ça fait. Je pense que quelque part, je dois aimer ça aussi. Mais
ça représente. Tu sais évaluer le temps un peu d'admin par rapport à l'instru ou à la compo?
La compo, c'est vraiment par période, je pense.
Ouais.
Quand j'ai des deadlines, je me bloque des.
Des périodes pour ça.
Des périodes pour ça.
Pour ça, ouais.
Et c'est là où je suis plus exécrable, je crois, à la maison. Ouais, okay. Parce que je stresse. Et, ouais. Parce que j'y arrive pas, et puis à la fin, j'y arrive tant bien que mal, ou pas comme je parle. Voilà. Ça me fait stresser, un truc de dingue. Et ou sinon, parfois, je prends juste la guitare et je joue, ou je teste des pédales ou des trucs de son, et puis il y a une compo qui vient, et là, c'est cool. Okay. Non, en général, c'est pas ces compos-là qui vont à des projets en particulier.
Okay.
Mais par rapport à ce que tu demandais en termes de temps, non, j'arriverai pas à chiffrer.
Ouais.
Mais je pense que je travaille beaucoup. Ouais. Je pense que je travaille beaucoup. Enfin, après, j'ai la vie perso à gérer avec deux enfants et tout, mais... Mais du coup, quand je bosse, je bosse, quoi.
Ouais.
Je ne saurais pas chiffrer. Après, ça dépend des périodes. Là, je sais que la dernière année, ce que je faisais quand je prenais ma guitare, c'était de bosser des trucs de bac.
Ouais.
Que je jouerai jamais en public, je pense. Enfin, j'espère.
On a fait 2-3 beaux enregistrements, quand même.
Ah oui, ça va.
Voilà. Enfin, des trucs de travail.
Mais qui te nourrissent. Et qui
te nourrissent,
et qui font passer un bon moment. Et qui te nourrissent, ouais. Et qui te font poser d'autres questions, entendre d'autres choses. Et, ouais.
Où est-ce que tu t'imagines dans 10 ans?
Ah, d'accord, c'est pas une question si con que ça.
Elle est moins con qu'elle en a l'air.
Bon,
tu peux prendre le temps de finir ton plan.
Je pense que je me suis jamais posé la question.
Ok.
Je pense que il y a 10 ans. Si je me voyais dans la situation telle que je suis actuellement, genre avec deux enfants, en réussissant à vivre correctement de ma musique, avec mes projets, dans une maison, avec un jardin et tout, c'est trop bien en fait, c'est exactement ce que je voulais. En fait, je voulais pas plus que ça, donc quand je prends un peu de recul, c'est trop cool quoi. Mais là, dans 10 ans, il y a d'autres facteurs qui entrent en compte, qui sont complètement extra-musicaux, et qui font que c'est quand même pas très rassurant. Du coup, je sais pas du tout.
Tu penses à quoi? Des facteurs sociaux, écologiques
Voilà. Okay. Je pense au réchauffement climatique, à tout ce que ça va engendrer. Ouais. Bon, il y a le Covid qu'on vit en ce moment, mais c'est impossible de savoir dans quelle mesure ça va se prolonger d'une manière ou d'une autre.
Ouais.
Parce qu'il y a déjà quand même un gros bouleversement dans nos vies à tous.
Ouais.
Mais c'est surtout ce truc de bouleversement climatique qui m'inquiète quand même pas mal, quoi. Et là aussi, sur le fait d'avoir deux enfants, c'est comme qu'est-ce que j'ai foutu. Enfin, non, je regrette pas, mais je m'inquiète pour eux, par contre. Mais donc, je serais bien incapable de... Si ça pouvait être finalement... En fait, c'est drôle parce qu'on n'est jamais content de notre situation, je pense.
Toi non plus?
Bah non, parce que tu veux toujours plus de gigs pour tes groupes, et même si finalement, objectivement, tu joues pas mal, bah t'as quand même... Tu dis ouais, mais non, il y a machin qui joue plus que moi, et... Enfin, tu as une espèce de truc de mental à gérer, et qu'il faut arriver à régler quand même.
T'as un ennemi juré, par exemple, un Némésis à citer?
Non, pas du tout. Non, mais on se compare toujours à des gens qui sont plus avancés que soi, en fait. Ouais. J'imagine qu'il y a d'autres musiciens qui se comparent à moi et qui ont cette espèce de petite... c'est quoi le terme ? De cette petite aigreur, on va dire. Mm-hmm. Parce que finalement, j'arrive à faire jouer mes projets et ça va pas si mal. C'est juste que moi, si je me compare à d'autres gens qui jouent plus, et ben, je me dis, ah ouais, non, mais en fait, moi, il faut que je joue plus parce que.
Donc, après, quand tu te compares à des gens qui jouent plus, après, tu compares ta musique à la leur et tu te dis, ah, mais c'est pas trop forcément.
Ouais, ça, non, pas forcément. Non, mais par contre, quand je compare ma vie à la leur, par contre, après, je me dis, c'est cool. Donc voilà, c'est un truc complètement en psychologie magazine et. D'arriver à prendre du recul et donc finalement je suis très très content de là où j'en suis et puis ça progresse en plus, ça n'arrête pas de progresser lentement mais c'est sûrement donc cool. Après où je m'imagine dans 10 ans, là c'est plus des facteurs extra musicaux et de société et d'écologie qui entrent en compte finalement, je pense. Et je sais pas comment ce sera possible de vivre de la musique en France dans 10 ans, sachant que c'est assez exceptionnel ce qu'on a ici. Voilà, donc je réponds Joker.
Ok.
Avec pas mal d'appréhension.
Bah, merci de finir ce podcast sur une touche positive.
Très bien.
L'émission sera suivie par l'émission de développement personnel.
Oui, pas de soucis. Et du yoga du rire. Oui, aussi. Yoga du rire. Vous trouverez ça.
Oui, mon Prozac.
Merci, bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Fin de cet épisode du podcast Les Mineureuses, proposé par Étienne Renard et Vincent Duchosal. Merci de nous avoir écoutés et merci à Art District Radio de nous diffuser. Vous pouvez donc retrouver les épisodes sur le site artdistrict-radio.com ou sur le site du collectif Mineurs de Fonds, mineursdefonds.fr. À bientôt.